Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs, ici Alexandre Colby et bienvenue sur la fréquence Forêt Claire, le podcast des jeunes IHEDN. Avant de commencer, bienvenue en 2024, Forêt Claire vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls, puisque notre président Nicolas Henry a un petit message pour vous.
Bonjour à toutes et à tous, chers membres des jeunes IHEDN, chers amis de l'association. En cette nouvelle année, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour votre contribution exceptionnelle au succès de notre association au cours de l'année passée. Depuis la rentrée de septembre, plus de 185 événements ont été organisés, ainsi que plus de 32 publications. Votre énergie, votre engagement et votre dynamisme ont été les moteurs de notre réussite, et je suis reconnaissant de pouvoir compter sur une communauté aussi dévouée de plus de 2700 membres. Le point fort de l'année écoulée a été le triomphe de notre campagne de financement participatif, Opération Hexagone, rendu possible grâce à votre générosité et à votre mobilisation exemplaire. Votre soutien à ce projet conséquent pour notre association a montré que les jeunes IHEDN peuvent se permettre d'être ambitieux, forts de nombreuses relations de confiance avec nos partenaires. À nous d'imaginer une suite à donner. En cette nouvelle année, je souhaite à chacun de vous, cadres, membres et partenaires des jeunes IHEDN, une période riche en succès et en bonheur, et en réalisations personnelles et professionnelles. Que cette année soit porteuse de moments forts et d'opportunités stimulantes. Merci pour votre dévouement continu. Ensemble, nous sommes prêts à relever de nouveaux défis et à faire de notre association un lieu encore plus dynamique et enrichissant. Avec mes meilleurs vœux pour 2024, en vous remerciant pour votre engagement continu. Et je vous souhaite une bonne écoute.
Et pour cet épisode, nous retrouvons Audrey Serron au micro. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise en charge de la blessure par les forces armées avec le nouvel officier général en charge des blessés de l'armée de terre, le général Dupuis de la Grand-Rive. Alors mon général, vous êtes en place depuis plus de 2 mois maintenant. Expliquez-nous pourquoi a-t-il été jugé nécessaire de créer ce poste ?
La nécessité pour l'armée de terre de créer ce poste d'officier général, elle s'inscrit dans une progression du dispositif d'accompagnement de la blessure qui a commencé au lendemain de la guerre du Golfe avec la création dès 1993 de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre.
En effet, nous allons fêter dans quelques jours le 30e anniversaire de la CABAT.
Au regard de l'augmentation du nombre de blessés, de la complexité de la problématique, de la multiplicité des acteurs, et puis surtout de la structuration d'un plan ministériel visant à répondre à la blessure, l'armée de terre, qui est celle qui a le plus de blessés parmi les trois armées et les services, a décidé pour, si j'ose dire, chapeauter l'ensemble du dispositif terre et la collaboration avec les acteurs extérieurs, de nommer un officier général. Il se trouve que j'ai été nommé comme officier général en charge des blessés, aussi parce que j'avais côtoyé la blessure, et notamment durant les 2 dernières années, à Fontainebleau, au sein du Centre National des Sports de la Défense, avec la reconstruction par le sport, où j'ai rencontré des centaines de blessés.
Pouvez-vous nous parler de votre rôle de représentation de la blessure ?
La représentation de la blessure, elle se fait tout d'abord dans le dispositif, à travers la coordination, la comitologie, ce plan ministériel et tous les organismes qui se mettent ensemble pour accompagner la blessure, eh bien à chaque fois, on a besoin d'un représentant de l'armée de terre. Avant, c'était davantage le colonel Jorot, qui est le chef de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. Eh bien, aujourd'hui, dans une logique plus globale, c'est l'officier général en charge de la blessure. Il y a aussi une vocation de représenter le commandement vis-à-vis des blessés eux-mêmes et des familles. Et je pense que de ce côté-là, il y a une très très forte attente de reconnaissance de ce qu'ils endurent, de leur parcours qu'ils ont engagé à partir du moment où ils avaient été blessés. Et puis il y a aussi une représentation vis-à-vis du commandement, voilà, à les témoigner auprès des chefs de corps, des écoles, dans la formation des jeunes officiers ou des sous-officiers, de ce qu'est la blessure. Et peut-être qu'un officier général avec une certaine expérience et maturité est plus à même d'enseigner ou de discuter avec à l'intérieur de l'armée de terre sur cette problématique de la blessure qui touche toutes les unités et toutes les écoles.
Depuis quand la blessure est-elle prise en compte ?
Ce sujet est bien évidemment un sujet historique. Historique et même patrimonial, puisque nous sommes à quelques encablures des Invalides. Les Invalides qui sont un établissement qui a été créé par Louis XIV, au XVIIe et XVIIIe siècle, pour accueillir les dizaines de milliers, voire centaines de milliers de survivants des guerres incessantes du grand siècle et des différentes batailles qui ont échelonné le règne de Louis XIV. Donc cette logique de blessure et d'invalidité de guerre, elle remonte en France à plusieurs siècles. Elle a pris aussi, mais cette fois-ci, dans sa partie médicale.
Cette blessure n'était donc pas considérée de la même manière qu'elle l'est actuellement.
Alors, à l'époque, elle était, je ne dis pas sommairement traitée par des médecins qui existaient déjà sur les champs de bataille, mais elle n'était pas traitée a posteriori comme elle l'est aujourd'hui, notamment sur sa partie psychologique ou psychiatrique. Moi, je pense qu'il y a eu, avec la mise en place aussi de la médecine de guerre et de la médecine militaire, avec l'ère napoléonienne, du Premier Empire, puis du Deuxième Empire, un tournant avec vraiment une prise en compte de la souffrance d'un point de vue médical, l'installation d'hôpitaux, la mise en place de médecins et d'infirmiers de plus en plus nombreux, pour des blessés brancardisés, ensuite envoyés en hôpital de campagne. Voilà, donc là on traverse plutôt le 19e et le 20e siècle. Et puis cette blessure, elle commence à prendre dans sa reconnaissance une apparence psychique, psychologique, dès la Première Guerre mondiale, où là on a des première tentative de médecins de régler ce problème que des bombardements, des traumatismes dus à la guerre créent un choc psychologique sur les individus et sur les combattants de Verdun ou de la Somme. Le véritable tournant, et notamment sur la blessure psychique, c'est sa reconnaissance au lendemain de la guerre du Golfe, donc dans les années 90, exactement en 1992, où cette fois-ci, la France, prend en compte, reconnaît la blessure psychique comme une blessure à part entière, avec un devoir de réparation de l'État derrière, notamment une pension militaire d'invalidité, et puis un traitement médical et un accompagnement psychosocial très fort. Et, si j'ose dire, cette blessure psychologique, elle va prendre une importance particulière avec l'engagement en Afghanistan, et notamment avec le durcissement, à partir de 2007-2008, avec des pertes, notamment par blessure, assez importantes, dans les vallées d'Afghanistan, et du fait aussi, par la professionnalisation des armées, d'une répétition des opérations qui parfois crée la blessure psychique. Lorsque vous avez un soldat, quel que soit son grade, qui part une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, six fois, parfois dix fois, sur 12, 13, 14 ans, eh bien l'occurrence de la blessure psychique est plus importante. Et donc aujourd'hui, les armées, depuis 10-15 ans, sont confrontées à un accroissement important de la blessure psychique, Et donc cette blessure psychique, elle est, comme elle l'a souvent été, médicalisée, mais en plus, elle est davantage accompagnée. Pour répondre plus sommairement à votre question, cette blessure physique, elle est prise en compte depuis les Invalides, médicalement depuis environ un siècle et demi, et psychiquement depuis une trentaine d'années, et si j'ose dire, de façon plus forte depuis 15 ans.
Est-ce qu'en deux mots, vous pouvez nous donner une définition de la blessure ? Comment est-ce qu'on comprend la blessure psychique ?
L'exposition, parfois répétée, mais pas toujours. L'exposition répétée à la violence, notamment à la violence guerrière, avec des phénomènes neurologiques, psychologiques qui dépassent mes compétences et qui sont davantage du ressort d'un médecin, mais que l'on peut comprendre, qui crée à l'intérieur de l'individu, notamment dans son rapport à la mort et dans une situation d'insécurité de lui-même ou de ses camarades, crée un choc. Voilà. Ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome post-traumatique. La blessure psychique, elle peut être due également à l'exposition sur une longue période à une situation de stress. C'est le cas pour nos soldats lorsqu'ils partent en opération, qui n'ont pratiquement, parce que c'est la guerre, si j'ose dire, pendant 4 mois, pendant 6 mois, ils savent qu'ils craignent pour leur vie. Et donc ce stress, à un moment, parce qu'on craint l'IED, parce qu'on craint le sniper, parce qu'on craint le tir d'obus, y compris dans le sanctuaire, lorsqu'on dort dans sa base, eh bien, crée à un moment une situation d'insécurité et de choc psychique, parce que simplement l'organisme ou le cerveau dit non.
Sachant cela, est-ce qu'on peut prévenir ces blessures psychiques ?
Effectivement, avant de faire du curatif, ou d'accompagner pendant l'action, est-ce qu'on s'est déjà penché sur le préventif ?
Par exemple, à travers la formation et la sensibilisation au risque, la mise en place de programmes de renforcement de la résistance au stress.
Je crois qu'effectivement, y compris dans ce domaine-là, les armées ont travaillé dessus avec des techniques de relaxation, des techniques de pleine conscience, des techniques de groupe. Ce qu'on appelle, nous, les techniques d'optimisation de la performance, ou plutôt aujourd'hui, d'optimisation des ressources des forces armées, ORFA, enseignées au Centre National des Sports de la Défense, justement, à Fontainebleau, et qui, aujourd'hui, eh bien, permettent, probablement, dans la prise en compte du stress, eh bien, une meilleure anticipation, et ont probablement des résultats ensuite, sur la capacité de résilience des unités au combat. Maintenant, sur l'anticipation du choc dû au syndrome post-traumatique, c'est-à-dire la sidération par rapport à un cadavre, par rapport à un tir, à un bombardement, une sidération par rapport à un attentat, je laisserai davantage les médecins, et notamment les psychiatres ou les neurologues, pour dire si effectivement aujourd'hui, je sais que notre service de santé, notamment Gerba, travaille hein, sur ces sujets-là, d'anticiper d'atténuer le choc que représente le syndrome post-traumatique, mais dans mon rôle aujourd'hui, la prévention n'est pas encore une de mes priorités, mais même si elle deviendra assez rapidement.
Vous portez une autre casquette, celle d'accompagner au quotidien les blessés militaires. Il y a une phase de reconstruction et de réintégration par le sport. Cela consiste en quoi exactement ?
Vous avez parlé de réintégration, ça conforte, si j'ose dire, le mandat que j'ai reçu. Ces blessés, je tiens à le dire, et c'est le premier signe que j'ose leur adresser, c'est qu'ils sont là, probablement, et en fonction de leur choix, pour se réinsérer dans une autre vie. Mais moi, ce que je souhaite avant tout, c'est de les réintégrer dans la communauté si par hasard à un moment ils se sont sentis un peu à l'écart. Et donc cette notion de réintégration dans le corps militaire, dans l'institution militaire, comme camarades, ce qu'ils n'ont jamais cessé d'être et ce qu'ils ne cesseront jamais d'être, elle est très importante. Cette réintégration, pour revenir sur le sport et donc la gestion du corps et de l'esprit, la réintégration par le sport, la reconstruction par le sport pour un militaire, elle est fondamentale. Quand on rentre dans l'armée, ça fait partie un petit peu de l'image d'Épinal, mais ça fait partie aussi du statut, c'est pour faire de l'entraînement physique. Et un soldat qui part au combat, il s'est préparé physiquement, et donc son rapport au corps, son rapport à la puissance, à ce qu'il peut générer par le corps, est très important. Et souvent, cette logique de rapport au corps, elle est brisée par la blessure. Lorsque vous réintégrer ou que vous permettez à un militaire de se reconstruire, si vous ne passez pas par le corps, quelle que soit sa situation, même s'il est très touché physiquement, même s'il est en partie en manque de mobilité, eh bien, redécouvrir le sport, redécouvrir l'effort physique, redécouvrir la capacité qu'il a gardée, qu'il a par le sport, c'est fondamental. Et donc la reconstruction par le sport est dans, je n'oserais pas dire la renaissance, mais en tout cas, la réappropriation de ses capacités différentes, c'est quelque chose de fondamental. Et cette reconstruction, elle peut aller de la découverte jusqu'à la pratique courante, et nous en avons de plus en plus.
La compétition.
La compétition, y compris la compétition au niveau paralympique. Je salue d'ailleurs mes camarades, soldats, gendarmes, aviateurs, marins, qui sont aujourd'hui engagés dans la préparation des Jeux paralympiques et bien évidemment, on les attend au poteau.
Vous exercez également une troisième fonction importante de coordination entre les nouveaux acteurs. Quels sont ces acteurs ?
J'avoue qu'à ce poste-là, j'imaginais que j'aurais 5, 6 dizaines d'acteurs. J'en découvre pratiquement tous les jours. Et dans le tour que je fais pour rencontrer tous ces gens qui, pour la majorité d'entre eux, quel que soit leur niveau, sont conscients du sens et de la cause qu'est la blessure. Et sont extrêmement engagés dans leur fonction. Eh bien, j'en suis à peu près à 30, 35 acteurs et j'aurais probablement fini mon premier tour fin décembre et on a à peu près une cinquantaine d'acteurs. Ces acteurs, ils sont d'abord dans le ministère, essentiellement au sein des armées et du secrétariat général pour l'administration. Je citerai bien évidemment les cellules d'aide aux blessés que chaque armée et le service de santé ont. Je parlerai aussi de tous les acteurs sociaux, l'action sociale des armées, l'ASA, l'IGESA, qui est un opérateur social bien connu des militaires et qui aujourd'hui est celui, en partenariat avec l'Office national des anciens combattants, s'occupe des maisons Athos, donc les maisons qui ont été créées pour accueillir nos camarades de blessés psychiquement, c'est la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, c'est toutes les directions des ressources humaines de chaque armée et du ministère, c'est bien évidemment la secrétaire d'État aux anciens combattants, Madame Patricia Mirales, qui a pris son bâton depuis mai 2023 pour lancer ce plan ministériel d'accompagnement des blessés et de leurs familles et qu'elle suit pratiquement jour par jour. Voilà. Et puis ce sont les acteurs extérieurs au ministère, toutes les associations, et je les salue, notamment les plus importantes, qui assistent financièrement les blessés, que ce soit les gueules cassées, que ce soit la fondation André Maginot. N'oublions pas non plus l'association propre à l'armée de terre, qui s'appelle Terre Fraternité, et qui fait un travail extraordinaire derrière le général Margaille. C'est tout un tas d'associations, Solidarité, Défense, l'ADO, et puis des associations qui sont peut-être un peu plus dans l'ombre, un peu moins officielles, mais qui permettent aux blessés de se reconstruire, voire parfois d'accéder à leurs droits à réparation. Voilà, c'est extrêmement élargi. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, ça tombe bien, parce que ça montre qu'il y a beaucoup d'esprit altruiste et de bienveillance autour des armées pour accompagner nos milliers de combattants. Voilà, il faut coordonner tout ça. Alors, non pas au niveau ministériel, hein, parce que il y a un cabinet au niveau de la secrétaire d'État pour ça, mais en tout cas, pour nos blessés de l'armée de terre, je pense qu'il est important d'avoir peut-être pas une autorité fonctionnelle, mais en tout cas un coordinateur qui puisse animer de façon à simplifier les procédures, simplifier les relations, privilégier avec moi. Alors je dis pas que dès qu'on parle de blessure dans la mer de terre, et ben maintenant il y a un numéro de téléphone, même s'il existait avant avec la CABAT. Bon, là on est la CABAT qui est davantage dans le suivi quotidien des blessés. Dans le suivi quotidien. Alors moi, mon rôle est aussi d'écouter et de rencontrer. Et je rencontre les blessés dans les maisons Athos ou diverses occasions, et j'y prends, si j'ose dire, beaucoup de plaisir et d'intérêt. Mais là où je suis attendu, y compris par les familles et les blessés eux-mêmes, c'est d'abord de faire avancer toute cette complexité, hein, qui pollue, qui, si j'ose dire, impatiente. Les blessés, leur famille, leur conjoint, leur conjointe, et qui créent des situations de précarité, voire de drame.
On va revenir quelques instants sur le plan blessé 2023-2027, présenté en mai 2023 par Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. En quoi ce plan est-il novateur par rapport au précédent plan d'action 2019-2022 relatif au parcours de rétablissement du militaire blessé psychique ? Qu'est-ce que concrètement ce plan va venir changer pour vous ?
Madame Mirallès lui a donné une nouvelle impulsion, d'abord parce qu'il a été complété. Je pense qu'il a ordonnancé aussi un certain nombre de choses qui n'existaient pas dans le plan. Il a été complété. On parlait du sport tout à l'heure. Il y a un axe sur la reconstruction par le sport. Et moi, dans mes anciennes fonctions, et avec ce que fait aujourd'hui le général Sanzé, qui est commissaire au sport militaire, moi je me félicite que la reconstruction par le sport soit reconnue comme un axe de reconstruction. Qui est quelque chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de fondamental, et bientôt y compris pour les familles, avec des structures que nous sommes en train de créer.
Donc les familles vont participer à cette reconstruction des blessés en les accompagnant et en faisant également du sport ?
Pas tout de suite, il faut un petit peu de temps, hein, parce que c'est pas d'un coup de baguette magique qu'on crée des structures adaptées pour les familles, mais les familles seront, intégrées dans ces efforts et dans cette reconstruction par le sport, et ça, c'est la nouvelle impulsion qui a été donnée en mai 2023.
Il y a également une question que je me posais. Est-ce qu'il existe un poste comme le vôtre de général ou un amiral en charge des blessés au sein de l'armée de l'air ou de la marine ?
Alors, ça n'est pas le cas d'un point de vue officiel, au sens où il n'y a pas une autorité comme le pas que vient de faire l'armée de terre dans les autres armées.
Est-ce en raison du nombre de blessés qui est plus conséquent dans l'armée de terre ?
L'une des raisons, effectivement, c'est le fait que en blessés, et notamment en blessés de guerre, les armées sont l'armée de l'air et de l'espace, et la marine ont probablement un volume moins important. Néanmoins, pour le voir avec le chef de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de l'air ou de la marine, ça n'empêche pas les amiraux ou les généraux de l'armée de l'air directement au téléphone, de prendre en charge un certain nombre de sujets. Hein. C'est le cas pour l'amiral Janico, qui est donc le directeur du personnel de la marine. Le sujet blessé est une de ses priorités. Et je sais que un des acteurs importants, on l'a dit au début, hein, c'est-à-dire le service de santé des armées, il y a un officier général qui est responsable de la problématique blessure, même si, comme je vous l'ai dit, la blessure innerve, irrigue, ruisselle dans tous les hôpitaux et dans toutes les problématiques du service de santé, mais sur les blessés de guerre, une fois qu'ils sont sortis de l'hôpital, il y a un officier général du service, un médecin général qui est mon interlocuteur.
Est-ce que vous avez peut-être rapidement un dernier mot pour nos auditrices et nos auditeurs ?
J'ai été très honoré d'être reçu par les jeunes de l'IHEDN, que je salue au passage, que je remercie pour leur engagement. Je crois qu'on a une formidable jeunesse qui probablement, plus que la mienne, il y a 40 ans, quand j'étais en cycle de scolarité supérieure, et est en conscience par rapport aux sujets de défense, de sécurité, de géostratégie et de géopolitique. C'est un phénomène français. Il y a 30 ans, 40 ans, il était interdit de parler de géopolitique à l'école ou à l'université. Ça n'était politiquement, si j'ose dire, pas toléré, parce que ça faisait référence, notamment d'un point de vue dogmatique ou conceptuel, à des phases sombres de la politique. Aujourd'hui, on est assez désinhibé sur ces sujets de géopolitique et de géostratégie. Et je trouve ça vraiment très encourageant que des jeunes se mobilisent au sein de l'Institut des hautes études de la Défense nationale pour agiter notre société sur ces problèmes de rapport de force, de conquête de paix et de gestion de la violence grâce à des gens comme vous. Donc merci beaucoup. Et puis aussi, merci d'être venu m'interroger sur un vrai sujet qui est la blessure et derrière la
vulnérabilité. Merci beaucoup Audrey pour cette interview. Merci à vous mon général pour votre temps. Forêt Claire remercie aussi la participation du comité santé des jeunes IHEDN avec Charles Robineau. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Nous nous retrouvons très prochainement sur la fréquence Forêt Claire avec un nouvel épisode dans lequel nous vous parlerons des startups dans l'aéronautique. Passez une bonne journée.